Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, bonjour. Vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako. Je suis Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une heure. Au programme aujourd'hui, une pétition pour l'intensification des échanges entre la Russie et le Mali recueille plus de 8 millions de signatures, l'Algérie pourrait se connecter à l'analogue russe du système SWIFT et des pays africains dominent l'industrie mondiale des diamants. La République centrafricaine souhaite voir s'installer une base militaire russe sur son territoire. L'ambassadeur de RCA à Moscou nous dira les raisons de ce choix avant de faire le point sur les perspectives de la coopération russo-africaine. Sergueï Lavrov effectue sa 4e tournée africaine en moins d'un an et répond aux questions de Spoutnik Afrique. Une chercheuse russe décrira les objectifs et l'importance des visites du chef de la diplomatie russe. Les ministres des Affaires étrangères des BRICS se réunissent dès aujourd'hui en Afrique du Sud. L'ambassadeur itinérant sud-africain auprès du groupe des 5 fera le point sur les dossiers brûlants qui concernent l'organisation. La journée de l'exportation de Moscou, c'était la semaine dernière. Deux représentants nigérians qui ont fait le déplacement dans la capitale russe pour l'occasion exposeront à notre micro quelle est la recette pour un partenariat gagnant-gagnant réussi avec la Russie. Les Maliens veulent que les échanges entre Bamako et Moscou s'intensifient. L'association du groupe des Patriotes du Mali a annoncé avoir collecté plus de 8 millions de signatures pour sa pétition en faveur d'un rapprochement avec la Russie. Selon le compte-rendu du groupe, les signataires de ce document venaient de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Et cette action n'est pas passée inaperçue auprès du gouvernement malien. Le 30 mai dernier, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a reçu des représentants de cette association et salué leurs efforts pour consolider les relations entre le Mali et la Russie. Le chef du gouvernement malien de transition a rappelé les réalisations qui ont été entreprises en ce sens, selon le compte-rendu de la rencontre. Pour rappel, le groupe des Patriotes du Mali, qui a été fondé en 2016, comprend plusieurs associations et mouvements. Lancé en 2016, sa pétition a même été déposée à l'ambassade de Russie à Bamako en 2019, selon le groupe. Enfin, les autorités maliennes de transition ont déclaré à plusieurs reprises vouloir approfondir la coopération avec Moscou dans les domaines de la défense et de l'énergie. Bamako attend également des aides sociales et scientifiques. Venu au Mali début 2023, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a noté que la coopération avec Bamako dans les secteurs militaires et militaro-techniques avait connu un nouvel essor. Les transactions bancaires entre l'Algérie et la Russie pourraient bientôt être facilitées. Dmitri Chatounov, président de la Commission russe pour la coopération économique avec l'Algérie, a déclaré à Spoutnik que son institution étudiait la possibilité de connecter Alger à l'équivalent russe de SWIFT, le SPFS, le système russe de transfert des messages financiers. Pour M. Chatounov, l'objectif est de trouver un mécanisme de transaction bancaire fiable alors que Moscou et Alger font des échanges commerciaux intenses. Selon le responsable russe, l'Algérie est très intéressée par la coopération avec la Russie et est disposée à négocier. Il a ajouté que des résultats concrets seront visibles au plus tôt dans un an. Pour rappel, le SPFS a été créé en 2014. Selon Alla Bakina, la chef de département du système de paiement national de la Banque centrale russe, le développement de l'analogue russe de SWIFT continue à un rythme sans précédent. 469 participants de 14 pays étaient connectés au système russe de transfert de messages financiers en février dernier. Trois pays africains figurent dans le top 5 des producteurs mondiaux de diamants. Selon les données publiées par le processus Kimberley, un forum de négociation internationale qui réunit les représentants des pays de ce secteur, le Botswana arrive en deuxième position avec 19,11% de la production mondiale. On retrouve ensuite en quatrième position la République démocratique du Congo avec 10,93% et l'Afrique du Sud au cinquième rang avec 8,18%. Quant à la première place, elle revient à la Russie avec 32,94% de la production mondiale. Sur le marché russe, le quasi-monopole revient à la société Alrosa qui exploite presque 90% des diamants dans ce pays. Quant au classement mondial en termes de valeur, les diamants africains sont les plus précieux au monde. Le Botswana est en tête avec 28,54% devant la Russie et l'Angola. Pour rappel, le coût total des diamants exploités en 2021 a atteint 12,9 milliards de dollars. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de brancher votre poste de radio sur 99.5 FM depuis Bamako. La République centrafricaine souhaite accueillir une base militaire russe sur son territoire. Pour le ministre de la Défense de RCA, Rameau Claude Birot, son pays veut en finir avec ses problèmes sécuritaires qui plombent les efforts de développement de son pays. Pour rappel, la coopération militaire de Bangui avec Moscou n'est pas récente. En 2018, la Russie y a envoyé ses instructeurs militaires pour aider l'armée à lutter contre les rebelles. Lors des élections présidentielles de 2020, Moscou avait dépêché sur place plus de 300 instructeurs et envoyé 4 hélicoptères avec équipage pour lutter avec succès contre une offensive menée afin de saboter le scrutin. Récemment, dans une précédente émission, la ministre des Affaires étrangères de RCA, Sylvie Baipo-Témon, avait qualifié de réussie l'aide militaire russe et plaidé pour un renforcement de la coopération avec la Russie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur Spoutnik Afrique l'ambassadeur de RCA en Russie, Léon Dodonou Punagaza. Au micro de notre correspondante, il est revenu sur la volonté de son pays d'accueillir une base militaire russe et a fait le point sur les perspectives d'évolution de la coopération entre Bangui et Moscou. Écoutons-le.
Merci beaucoup, monsieur, que vous avez donné cette occasion de venir vous poser quelques questions. Et je voudrais commencer par les questions concernant les bases militaires dont vous avez parlé dans votre récente interview pour un média russe. Et vous avez indiqué que la République centrafricaine était intéressée par le déploiement d'une base militaire russe sur son sol. Et comment voyez-vous cette base et quelles fonctions pourrait-elle remplir, à votre avis?
Merci beaucoup, madame. Je pense que la question de la base militaire russe en Centrafrique, elle n'est pas nouvelle. Quand j'ai pris mes fonctions, lors de ma première rencontre avec le général Shoigu, ministre de la Défense, j'avais évoqué ce problème. Parce que l'armée française, l'armée coloniale qui était chez nous, était en train de partir. Alors, vous savez, la nature a horreur du vide. Vu ce que l'armée russe a fait pour le pays, lorsque les groupes armés avaient envahi le pays, je suis dans le plein droit, à travers mon État, de demander à ce qu'il y ait une base militaire russe en Centrafrique.
Vous savez qu'évoquant ce projet de base, hier, le ministre centrafricain de la Défense, M. Rameau Claude Birot, a indiqué aussi que les militaires russes ont voulu être aux côtés de l'armée centrafricaine afin de l'aider. Qu'est-ce que pensez-vous de l'aide militaire qui a été déjà accordée par la Russie à la RCA? Est-elle efficace à votre avis? Est-elle suffisante?
Oui, vous savez, l'armée russe, c'est l'armée qui a écouté le cri du peuple centrafricain qui est venu à son secours. Lorsque la population était abandonnée par l'armée française, les Sangaris. Alors, tout ce que l'armée russe fait ne peut être que dans le bon sens et accepté par le peuple, parce que ce que l'armée russe a fait en un rien de temps, l'armée française n'a pas pu le faire en 60 ans.
Est-ce que l'installation d'une base militaire ou tout autre projet de coopération avec la Russie seront discutés lors de cet événement? Et que attendez-vous de cet événement en général?
Je pense que c'est un événement de taille pendant lequel beaucoup de projets seront discutés, des projets d'ordre économique, sécuritaire, pour le développement du pays. Et je sais que mon président sera là avec une forte délégation.
Et vous savez, avant le sommet Russie-Afrique, il y aura aussi un forum économique de Saint-Pétersbourg, fin juin. Est-ce que la RCA va être aussi présentée lors de ce sommet?
Des autorités ont été invitées à cet effet.
D'accord.
Et je sais qu'elles seront là.
Vous avez mentionné la France quand on avait parlé d'une base militaire. On observe aujourd'hui une forte montée d'intérêt de la part des Occidents envers l'Afrique. Et les présidents, les hauts fonctionnaires enchaînent leurs visites sur le continent, on le voit. Et parmi les pays occidentaux qui cherchent à réactiver, on va dire, leur influence sur le continent, figure aussi la France. Donc, comment voyez-vous cette tendance en général et où en sont aujourd'hui les relations entre Paris et Bangui?
Ben, vous savez, nous avons toujours la porte ouverte à tous ceux qui veulent venir aider le peuple centrafricain. Mais aider sincèrement pour contribuer au développement du pays. La porte n'est pas fermée, on n'a pas empêché aux gens de venir nous aider, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Allemands, ceux qui veulent venir, ils peuvent venir, mais qu'ils viennent nous aider sincèrement, non pas pour venir armer les, donner les armes au groupe armé pour déstabiliser le régime, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous avons beaucoup souffert et nous voulons le développement du pays. C'est ce que la Russie est en train de faire.
Encore revenant sur les propos de Monsieur Raymond-Claude Biro, il a dit aussi que le problème de sécurité en RCA plombe les efforts de développement. Et quels sont, à votre avis, les domaines les plus prometteurs pour les échanges économiques entre Moscou et Bangui?
Le ministre a raison de dire que les groupes armés causent des difficultés au développement du pays. Parce que quand il y a l'insécurité, le pays ne peut pas se développer. Vous savez, par exemple, en matière minière, la plus grande base, enfin la plus grande place de production, ça se trouve au nord-est du pays. Et c'est cette zone-là qui est occupée par les groupes armés, où ils le produisent, hein, ils exploitent, ils vendent par contrebande, soit à Dubaï ou à n'importe quel pays, ils achètent les armes. C'est pour cela que la Russie est en train de faire des efforts pour que la RCA recouvre les 100% de la totalité du territoire. Alors à partir de ce moment, lorsque le pays sera sécurisé et on aura une pleine production économique. Alors c'est pour cela que moi j'aurais souhaité qu'il y ait une base militaire russe qui va travailler de commun accord avec l'armée centrafricaine et avec les instruments, les moyens militaires de l'armée russe. Alors on pourra repousser hors du pays tous ces groupes armés qui déstabilisent le régime, qui freinent le développement de la République centrafricaine.
Et pour les domaines économiques, dans quel domaine, au premier lieu, nos pays pourraient coopérer, développer leurs relations?
Oh, dans le domaine économique, il y a beaucoup de choses.
Par exemple,
on a l'infrastructure. Vous avez, la Russie a des grandes sociétés de construction. Vous savez, la Russie construit l'une des plus belles routes du monde, hein. Alors, on a les problèmes d'infrastructure pour désenclaver la République centrafricaine vers la mer, le chemin de fer, hein, on n'en a pas, et la Russie a un grand réseau ferroviaire. Alors, plus, on a du bois, par exemple, on a du café, on a du diamant, de l'or, Rose Geologia est allé effectuer une mission de prospection. On a découvert 467 indices miniers. Alors, si 467 indices miniers, vous vous rendez compte? Si même ne serait-ce que un dixième de ces indices était exploité, la RCA serait riche, la population ne serait pas pauvre. Malheureusement, on est riche. Le sous-sol est très riche, mais la population est très pauvre.
Quels produits russes sont plus attendus, on va dire, qui intéressent plus les Centrafricains, par exemple? Vous pouvez donner quelques exemples?
Les produits, bon, je ne sais pas. Hein.
Et, dans les produits comme l'alimentation, peut-être, ou plutôt les voitures, est-ce
non,
qu'il y a quelques...
L'alimentation, nous, on a une autre alimentation. Hein, vous savez, nous, on a une autre alimentation. Mais par exemple, si la Russie peut nous faire une grande exploitation d'oignons, de pommes de terre, voilà, c'est ce que les gens mangent, utilisent beaucoup. En ce qui concerne d'autres produits russes, je me souviens, il y a 2 ans, le pays s'était intéressé dans le montage de véhicules OAS, Patriotes, en Centrafrique. On avait même tenu des réunions pour ça, mais je ne sais pas, ce dernier temps...
D'accord, donc c'est toujours un projet. Donc
c'est un projet,
pas,
parce qu'on avait une usine d'assemblage des véhicules français, Peugeot et Citroën, à Bangui, chez Gakoua. Bon, on ne fait plus que les installations soient restées comme ça. Alors, la Russie pourrait...
Qu'est-ce que la RCA peut proposer à son tour pour exportation en Russie dans ses économies?
Mais nous avons le café, par exemple.
Cacao.
Le café, les arachides, cacao.
D'accord.
L'or, le diamant, tout ça là, c'est des produits qu'on peut proposer à la Russie en échange.
Bon, nos échanges peuvent être vraiment très riches, je vois, économiques dans tous les domaines.
Tout à fait, merci beaucoup.
La question suivante, c'est le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Simplice Saranji, a déclaré à plusieurs reprises que la RCA avait besoin d'investissements étrangers, y compris russes. Donc, comment vous évoluez-vous l'ampleur des investissements actuels de la Russie et les perspectives de leur éventuelle augmentation?
Vous savez, nous avons nous sommes un pays post-conflit. Donc après ça, vraiment, on a besoin qu'on nous injecte un peu financer des projets d'infrastructure, financer des projets de, par exemple, surtout l'infrastructure. Hein, en ce qui concerne la masse salariale, je pense que l'État est capable de se débrouiller avec les recettes nationales pour apurer les salaires. Mais c'est surtout l'infrastructure, construire les usines de production sur place pour que nos produits soient transformés sur place et être revendus à l'extérieur.
Ça se passe déjà aujourd'hui ou c'est juste c'est un projet
pour des projets.
Okay.
C'est des projets.
Donc tout d'abord, il faut en revenant un problème sécuritaire qu'il faut résoudre d'abord. D'accord, je vois. La RCA a été choisie par les BRICS pour abriter leur siège en Afrique centrale.
Tout à fait.
La ministre centrafricaine du commerce, de l'industrie, s'est dite par ailleurs favorable à l'ouverture d'une filiale de la banque des BRICS en RCA. Et qu'est-ce que les BRICS pourraient apporter à votre pays, à votre avis?
Moi, à mon avis, les BRICS peuvent aider facilement au développement de la République centrafricaine parce que lors de la première visite, non, de la deuxième visite de la présidente, Madame Larissa Zeltsova, beaucoup de projets ont été adoptés et les hommes d'affaires sont prêts, je vous dis prêts, à descendre à Bangui avec leurs moyens propres pour investir en RCA. Ils sont prêts, que ce soit les hommes d'affaires russes, que ce soit les hommes d'affaires indiens, parce que le BRICS est composé de... Donc, ils sont prêts.
Et comme obstacle, il y a quelques obstacles ou c'est juste que ça prend plus de temps pour organiser tout ça? Ou il y a quelques obstacles pour ces processus à commencer?
Vous savez, l'organisation d'une installation d'un comptoir commercial ou économique a besoin des démarches. D'abord, se faire enregistrer. La compagnie dans le registre du commerce, trouver les lieux d'installation et pour commencer. C'est cette démarche-là qui prend un peu de temps, mais je pense que dans les jours à venir, ça va décoller.
Les pays des BRICS devancent aujourd'hui déjà les pays du G7. Pour ce qui est de leur contribution à la croissance économique mondiale.
Tout à fait.
Depuis 2020. Mmh. Et comment voyez-vous les relations entre l'Afrique et le groupe dans l'avenir, en général, ou entre la RCA et le groupe, comment vous voyez ces relations?
Moi, je pense que le BRICS, c'est un groupe très confortable. La preuve en est que leur capital d'investissement est supérieur au G7. Et même certains pays africains ont décidé d'adhérer au BRICS. Donc, je suis optimiste et aux réalisations que le BRICS va effectuer en Centrafrique, qu'ils ont choisi comme la capitale et le siège du BRICS.
Et dernière question, j'aimerais bien finir par, est-ce que vous pouvez nous partager comment vous aimez la vie en Russie, comment vous la trouvez?
La vie en Russie, moi-même, je suis russe. J'ai fait mes études ici de 1975 à 1980. Je suis parti de là il y a 40 quelques années. Et puis, c'est un plaisir pour moi de la retrouver. Et j'ai perdu la langue, bon, parce qu'il n'y avait pas de pratique. Et après 40 ans, bon, ben, je me suis remis et je suis fier de me retrouver en Russie.
Merci beaucoup.
C'était Léon Dodonou Punagaza, ambassadeur de RCA en Russie pour Spoutnik Afrique. À notre micro, il a fait le point sur les perspectives d'évolution de la coopération entre Bangui et Moscou et est également revenu sur le souhait de la République centrafricaine d'accueillir une base militaire russe. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Zone de Contact sur Spoutnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Sergueï Lavrov a effectué une nouvelle tournée africaine juste avant de se rendre en Afrique du Sud pour une réunion des chefs des diplomaties des pays des BRICS. Il a visité le Kenya, le Burundi et le Mozambique. Depuis le Burundi où il a signé un accord sur le nucléaire civil, le chef de la diplomatie russe a répondu aux questions de Spoutnik Afrique et a notamment dénoncé les pratiques coloniales de l'Union européenne qui continue à s'opposer à la fourniture gratuite d'engrais russes. Écoutons tout de suite Sergueï Lavrov.
Qu'en est-il de la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'atome, donc du nucléaire? Est-ce qu'il y a des détails de la feuille de route que vous avez évoquée aujourd'hui?
Ce moment de mon упоминания.
Trois heures se sont écoulées depuis que j'ai mentionné la feuille de route sur l'énergie nucléaire. Il n'y a donc pas eu beaucoup de détails. Nous avons réitéré l'importance que les deux parties accordent à la finalisation rapide d'un accord intergouvernemental sur la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, en gardant déjà cette feuille de route à l'esprit. Le président du Burundi a réaffirmé son intérêt pour l'utilisation de la technologie russe dans ce domaine afin d'établir une industrie pertinente au Burundi. La signature de l'accord que j'ai mentionné et la conclusion d'un mémorandum sur la formation du personnel burundais à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire est contribuant. Le Burundi et de nombreux autres pays africains ont un besoin urgent d'engrais et souhaitent que la fourniture d'engrais russes se poursuive et s'étende. Nous sommes prêts à le faire et comme vous le savez, dès septembre dernier, le président Poutine a annoncé que nous étions prêts à transférer gratuitement aux pays africains 300 000 tonnes d'engrais saisies illégalement dans les ports de l'Union européenne. Les dirigeants de l'Union européenne, en pleine conformité avec les pratiques coloniales, avec les habitudes coloniales, ont bloqué cette initiative. Il a fallu 6 mois pour envoyer au moins le premier lot de 20 000 tonnes au Malawi. Et l'autre jour, un autre envoi d'une quantité comparable d'engrais vers le Kenya a eu lieu. Une expédition similaire vers le Nigeria est prévue dans un avenir proche. Permettez-moi de souligner une fois de plus que tout cela se fait au coût des efforts énormes entrepris par le Programme alimentaire mondial et le secrétaire général des Nations Unies. Il s'agit de surmonter l'attitude ouvertement russophobe des membres de l'Union européenne s'opposant à toute initiative qui, d'une manière ou d'une autre, aiderait les pays en voie de développement si cette aide est fournie par la Russie. Comme nous en avons convenu avec M. le Président aujourd'hui, nous considérerons les besoins du Burundi comme l'une des priorités dans la poursuite des travaux visant à supprimer ces obstacles illégaux mis en place par l'Union européenne.
Pour décrypter les dessous de la visite du ministre russe des Affaires étrangères, je vous présente Maya Nikolskaya, chercheuse russe spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique à l'université MGIMO de Moscou. Écoutons-la. Sergueï Lavrov a effectué sa toute première visite au Burundi. La veille, il s'est rendu pour la première fois en 13 ans au Kenya. Quel est selon vous l'objectif de ces visites qui ont lieu deux mois avant le deuxième sommet Russie-Afrique ?
Le Burundi est un partenaire assez traditionnel de la Russie en Afrique centrale et orientale. Le Kenya fait partie des pays qui ont une attitude plutôt neutre à l'égard de Moscou. Le sentiment pro-ukrainien y est fort, mais les dirigeants kényans ont récemment rejoint la position de l'Union africaine sur la crise ukrainienne, qui consiste à appeler les deux parties à la paix et à trouver une solution diplomatique. L'ordre du jour de ces deux visites est très chargé. Tout d'abord, il y a l'achèvement formel de plusieurs initiatives importantes, telles que la création de la commission intergouvernementale sur la coopération commerciale et économique entre la Russie et le Kenya. Deuxièmement, l'arrivée au Kenya de 34 000 tonnes d'engrais russes dont la Russie fait don. Le Kenya a grand besoin d'engrais et le président Ruto l'a mentionné plus d'une fois. Comme les prix des denrées alimentaires de base augmentent considérablement et qu'il est coûteux de les importer, le gouvernement cherche des solutions moins chères pour les engrais et les semences. L'année dernière, par exemple, le Kenya a levé une interdiction de plusieurs années sur le maïs génétiquement modifié. Il est désormais légal de l'importer. La situation alimentaire est donc complexe. On sait également que le Burundi et le Kenya envisagent désormais la possibilité de paiements mutuels en monnaie locale. Bien entendu, l'un des objectifs les plus importants de ces visites est de discuter de la participation au sommet Russie-Afrique du président kényan William Ruto et du dirigeant burundais Évariste Ndayishimiye. Sans oublier l'aspect symbolique. La présence personnelle du ministre des Affaires étrangères, accompagnée d'une délégation colossale de plusieurs dizaines de personnes, souligne une fois de plus l'importance colossale que la Russie accorde actuellement à ses relations avec ces pays.
Et que peut offrir la Russie à ces pays en tant que partenaire ?
On sait par exemple que le Burundi développe déjà un projet commun avec la Russie. En février dernier, la Russie a ouvert un nouveau laboratoire à Brunei, dans les locaux du Centre national de santé publique. Nous ne pouvons que nous en réjouir, car il y a maintenant d'excellentes équipes de biologistes de l'Institut de recherche en épidémiologie qui étudient également Ebola et d'autres terribles maladies infectieuses en Guinée. En ce qui concerne le Kenya, si nous parlons de l'agenda politique, il s'agit certainement de soutenir la réforme des Nations Unies. La Russie a déclaré sur toutes les tribunes qu'elle soutenait la position africaine et la création de la commission intergouvernementale sur le commerce et la coopération économique entre la Russie et le Kenya devrait permettre d'établir enfin des canaux de communication commerciale entre nos deux pays.
Lors de sa visite au Burundi, M. Lavrov a notamment évoqué le développement de la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Dans quelle mesure ce domaine est-il important et prometteur pour les deux pays et peut-être pour l'Afrique dans son ensemble ?
L'énergie nucléaire est un sujet très intéressant. C'est une option relativement sûre, propre et bon marché pour résoudre de nombreux problèmes en Afrique. Beaucoup de pays connaissent actuellement de graves crises énergétiques. Comme nous le savons, c'est surtout le cas de l'Afrique du Sud avec ses pannes d'électricité permanentes. C'est pourquoi ce domaine est particulièrement pertinent. Le Kenya s'intéresse à l'énergie nucléaire depuis le début des années 2010. En 2016, l'Agence kényane de l'énergie nucléaire et Rosatom ont signé un protocole d'accord. Nairobi a conclu des accords similaires avec la Chine, la Corée du Sud et la Slovaquie. Le leitmotiv de ces documents est de former le personnel à travailler dans l'industrie nucléaire. Nairobi prévoit de construire sa première centrale nucléaire d'ici 2038. Il me semble que ces projets sont très intéressants si la Russie a la possibilité de participer d'une manière ou d'une autre à ces développements nucléaires. En ce qui concerne le Burundi, la feuille de route pour le dialogue sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire a été signée en novembre 2022. Ce document prévoit une étude sur la possibilité de construire des installations et des infrastructures connexes au Burundi. Le Kenya et le Burundi étant tous deux membres de l'AIEA, rien ne les empêche de poursuivre des projets communs avec la Russie ou d'autres pays dans les domaines qui les intéressent le plus, Il pourrait s'agir, par exemple, d'utiliser les techniques des isotopes nucléaires dans l'agriculture. Les mutations dues aux radiations pourraient être appliquées pour développer des races spéciales de cultures qui seraient résistantes au changement climatique, par exemple. C'est l'Afrique de l'Est qui a été durement touchée par des récents chocs climatiques. Nous pourrions également parler de médecine nucléaire, en particulier de radiothérapie pour le traitement du cancer. À ma connaissance, un seul grand hôpital au Kenya, le Kenyatta National Hospital, offre actuellement de tels services et des fonds ont été alloués à l'achat d'équipements de radiologie pour le centre d'oncologie d'Eldoret. Là aussi, la Russie pourrait apporter une contribution constructive en matière de formation du personnel et de transfert de technologies nucléaires.
C'est la quatrième fois que M. Lavrov se rend en Afrique cette année. De nombreux pays occidentaux, en particulier les États-Unis, ont également augmenté la fréquence des visites de leurs fonctionnaires sur le continent africain. Quelles sont, selon vous, les raisons de cette activité de la Russie et des pays occidentaux en Afrique? S'agit-il d'une tendance internationale?
Il ne fait aucun doute que nous parlons d'une tendance qui se dessine depuis longtemps et qui a finalement pris forme. Et c'est tant mieux, car du point de vue du protocole et de l'image, comme je l'ai dit, l'arrivée d'un ministre des Affaires étrangères joue un rôle symbolique et très important. Ce faisant, nous démontrons l'importance, la signification de ces pays pour notre politique étrangère. Et il est bon de voir que la Russie étend la géographie de ses visites au continent africain. Alors qu'en juillet 2022, il s'agissait de l'Égypte, du Congo, de l'Ouganda, de l'Éthiopie, et de la rencontre de M. Lavrov avec les dirigeants de l'Union africaine à Addis Abeba, en janvier 2023, il s'agissait de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de l'Eswatini et de l'Érythrée. En février, il s'agissait du Mali, de la Mauritanie, du Soudan et de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous constatons que le vecteur géographique s'est légèrement déplacé vers l'Afrique de l'Est. C'est un très bon pas, un pas très prometteur. Les pays africains doivent savoir précisément avec qui ils travaillent. Quant aux États-Unis, l'Afrique est bien sûr un nouveau front pour eux face à la Chine et à la Russie. En 2022, le Congrès américain a adopté le Countering Russia and China in Africa Act. Je pense que le nom de cette loi parle de lui-même. En outre, la récente réorientation de la politique étrangère américaine à l'égard de l'Afrique, sous la direction de M. Biden, a proclamé une transition de la soi-disant exportation de la démocratie vers des projets concrets, en particulier des projets liés à l'énergie verte et à l'environnement. Dans un avenir proche, je pense donc que ces visites resteront au moins aussi fréquentes, voire s'intensifieront. Nous devons nous y préparer.
M. Lavrov sera en Afrique les 1er et 2 juin pour rencontrer les ministres des Affaires étrangères des BRICS et discuter du prochain sommet des BRICS. Peut-on s'attendre à de nouvelles déclarations lors de cette deuxième visite de M. Lavrov en Afrique du Sud cette année?
Les deux pays, la Russie et l'Afrique du Sud, ont certainement beaucoup de choses à discuter. Surtout à la lumière de l'histoire de la venue ou non du président russe au sommet des BRICS qui se tiendra à Durban en août. Suite au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine, les autorités sud-africaines ont trouvé une solution intéressante. Elles ont accordé l'immunité diplomatique à tous les participants, ce qui permettra à tous ceux qui le souhaitent d'assister au sommet sans crainte d'être poursuivis. Cette décision de Pretoria confirme que les Sud-Africains n'ont pas l'intention de céder aux pressions politiques. Elle pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre la Russie et l'Afrique du Sud et donner lieu à de nouveaux projets. Ici aussi, comme au Kenya et au Burundi, il s'agit d'initiatives commerciales de part et d'autre. À mon avis, la clé d'une coopération bilatérale fructueuse entre la Russie et certains États africains réside dans le commerce, l'investissement, le transfert de technologies et d'autres types de coopération commerciale est très fragmentée. Je pense qu'au cours de la visite, les conditions pour les hommes d'affaires d'Afrique du Sud en Russie et de Russie en Afrique du Sud seront discutées, entre autres choses.
C'était Maya Nikolskaya, chercheuse russe spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient à l'université MGIMO de Moscou. Pour Spoutnik Afrique, elle a décrypté les dessous de la tournée africaine de Sergueï Lavrov, la quatrième dans ce continent en un an. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une courte pause. Rassurez-vous, Spoutnik Afrique revient très vite. À tout de suite sur Maliba FM. De retour à Bamako sur les ondes de Maliba FM. Vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact. Moi, Anthony Lefebvre, je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS se tient à partir d'aujourd'hui en Afrique du Sud. Elle a pour objectif de préparer le prochain sommet du groupe des 5 qui aura lieu en août prochain. Et plusieurs sujets sont sur la table. Il s'agit notamment de l'élargissement du groupe à de nouveaux membres, mais aussi de la potentielle adoption d'une monnaie commune aux BRICS. Depuis le Cap, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a évoqué la question de l'élargissement des BRICS à de nouveaux membres. Il a en outre nommé la condition pour pouvoir intégrer le groupe des cinq. Je vous propose tout de suite d'écouter le vice-ministre russe.
БРИКС движется вперед. БРИКС демонстрирует свою силу и востребованность.
Les BRICS avancent et font preuve de force et de pertinence. Il s'agit probablement du centre de gravité d'un monde multipolaire. De nombreux pays ont manifesté leur intérêt à rejoindre les BRICS et à élaborer des programmes qui leur permettront d'adhérer non seulement à la coopération pratique, mais aussi aux accords politiques que nous avons conclus dans ce cadre. Il est important que tous les pays qui ont envoyé des experts ici et négocié le document final ne se contentent pas de s'engager envers les BRICS, mais qu'ils aient fait preuve d'une attitude ferme et d'une compréhension claire du fait qu'il s'agit de l'un des principaux formats modernes, de l'une des principales plateformes à permettre d'assurer leurs intérêts nationaux et leur souveraineté. La question de l'élargissement des BRICS fait l'objet de discussions depuis un certain temps. Ce n'est pas le moment de parler de candidats spécifiques. Les ministres tiendront des réunions en marge. Je crois savoir que le ministre Ben Farhan est ici au Cap et qu'il a prévu de rencontrer M. Lavrov. Il y a de très forts candidats pour rejoindre les BRICS. L'Arabie Saoudite est l'un d'entre eux. Nous soutenons certainement leur candidature et nous ferons de notre mieux pour veiller à ce que le processus d'élaboration des paramètres et des critères d'admission des nouveaux membres ne soit pas retardé.
Il faut comprendre les racines de cette vague de demandes d'adhésion au sein des BRICS. Anil Souklal, l'ambassadeur sud-africain auprès des BRICS, est revenu pour Spoutnik Afrique sur les raisons de cet engouement vis-à-vis de l'organisation. Et écoutons-le. Que pensez-vous de cette vague d'intérêt pour les BRICS de la part d'un si grand nombre de pays en ce moment ?
Nous continuons de recevoir des demandes de pays du Sud qui souhaitent devenir membres des BRICS. L'intérêt est donc très grand. Un grand nombre d'États ont écrit officiellement et un nombre tout aussi important de pays ont posé des questions par l'intermédiaire des ambassades pour obtenir davantage d'informations sur la manière dont ils peuvent adhérer au groupe.
Pourquoi les pays en développement sont-ils de plus en plus nombreux voulant rejoindre les BRICS ?
Je pense que c'est parce que nous vivons dans un monde très polarisé, très fracturé, où il y a beaucoup de frustration et l'on parle depuis longtemps de la nécessité de revoir l'ordre mondial actuel. Cet ordre est dépassé et ne répond pas aux aspirations des pays du Sud en particulier. Récemment, lors de la réunion du G7 à Hiroshima, le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a souligné que nous devions être conscients des frustrations des pays du Sud et que nous devions également être à l'écoute de leur point de vue. Je pense qu'il s'agit là d'une frustration croissante, car à notre époque, les pays du Sud continuent d'être marginalisés. Je pense qu'ils ne veulent pas non plus être utilisés comme des pions et subir des pressions pour soutenir un camp ou un autre. Et je pense que l'époque de l'hégémonie mondiale est révolue. Nous voulons un monde plus inclusif, un monde beaucoup plus juste, un monde où le fait d'être grand ou petit n'a pas vraiment d'importance. C'est la raison d'être du système des Nations Unies, de rassembler tous les membres de la communauté mondiale sous une même bannière. Mais bien sûr, comme l'a souligné le secrétaire général Guterres, le système des Nations Unies est devenu presque semi-paralysé, pris en otage par quelques pays qui veulent contrôler l'ordre du jour de l'ordre multilatéral.
Quelle alternative à cette institution centrée sur l'Occident les BRICS peuvent-ils proposer en termes de système de paiement ?
Je viens de mentionner la frustration avec l'ordre géopolitique mondial actuel. Et vous voyez, la même frustration en termes d'architecture financière mondiale. Les pays veulent de plus en plus avoir la liberté de commercer dans leur propre monnaie et ne pas être pris en otage par une monnaie qui domine le monde. Ils veulent avoir la liberté de commercer entre eux dans la monnaie de leur choix. Voilà ce que disent les BRICS, et les BRICS disent aussi que nous devons actualiser et matérialiser l'accord interbancaire que nous avons signé, pour que les paiements entre nous se fassent dans notre propre monnaie et pour que nous puissions aussi emprunter sur les marchés internationaux dans notre propre monnaie, de sorte que nous ne soyons pas vulnérables aux fluctuations monétaires si nous empruntons dans une ou deux monnaies mondiales, comme c'est le cas aujourd'hui.
La question de la création d'une monnaie des BRICS semble être à l'ordre du jour lors de leur prochain sommet qui se tiendra en août en Afrique du Sud. Dans quelle mesure l'idée d'une monnaie propre aux BRICS est-elle viable ?
C'est en cours de discussion pour le moment. Je ne pense pas que nous soyons prêts d'avoir une monnaie commune des BRICS. Je pense que la première étape consiste à faire accepter la nécessité de commercer entre nous et d'accepter nos propres monnaies sur les marchés mondiaux. Nous progressons vers une plus grande indépendance monétaire et pas seulement parmi les BRICS. parce que je pense que les pays du Sud veulent faire partie du courant dominant en termes d'échange dans leur monnaie.
Le Zimbabwe fait partie des pays qui ont manifesté leur intérêt pour l'adhésion aux BRICS. Quel est l'intérêt pour le Zimbabwe ?
Un certain nombre de pays africains, ainsi que des pays d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Asie, ont manifesté leur intérêt pour devenir membres des BRICS. Et il est évident qu'ils souhaitent rejoindre les BRICS parce qu'ils ont observé que ce groupe représente certaines valeurs et certains principes auxquels ils peuvent s'identifier. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle vous voyez tant de pays, y compris d'Afrique, dire qu'ils aimeraient faire partie de la famille BRICS. C'est que les BRICS défendent un monde plus équitable, plus inclusif, un monde où les pays du Sud ont une voix dans la détermination de l'ordre mondial en évolution, où ils ont leur mot à dire, où il n'est pas déterminé par un ou deux ou trois pays qui décident, ce qui est dans le meilleur intérêt de nous tous. En outre, les BRICS ne pointent pas du doigt et n'imposent pas de mesures unilatérales contre d'autres pays. Nous sommes inclusifs et nous essayons de faire partie de la solution et non du problème des questions mondiales.
Pourquoi la multipolarité joue-t-elle un rôle de premier plan dans le système mondial ?
Parce que nous avons vécu dans un monde bipolaire, un monde unipolaire, et nous avons vu que cela ne fonctionne pas, puisque cela a pour effet d'exclure la majorité de la communauté mondiale. Nous voulons un monde où nous reconnaissons qu'il existe différents pôles de pouvoir et que tous travaillent collectivement à la création d'une meilleure communauté mondiale, un monde multipolaire, multiculturel et multicivilisationnel. Un monde dans lequel tous les pays ont un intérêt qui détermine la forme de ce monde et la manière dont nous fonctionnons dans un cadre mondial multilatéral avec les Nations Unies au centre et qui adhère aux principes et aux objectifs de la charte dans un ordre multilatéral réformé.
C'était Anil Souklal, ambassadeur sud-africain itinérant auprès des BRICS. À l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays des BRICS, il a commenté les raisons qui poussent de nombreux pays, y compris africains, à vouloir rejoindre le groupe des cinq. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le centre d'exportation de Moscou a organisé la semaine dernière la journée de l'exportation dans la capitale russe. Des chefs d'entreprise et des responsables africains ont répondu présents à cet événement. Spoutnik Afrique a pu s'entretenir avec deux d'entre eux qui ont fait le déplacement. Adekunle Patrick ADGJ est PDG de la société nigérienne Fitzpatrick Energy and Logistics Limited et Prince Adeboboy Ologbeze est commissaire pour l'intégration et les relations des diasporas dans l'état d'Ondo. Pour Spoutnik Afrique, ils ont fait le point sur les perspectives de développement des relations entre la Russie et l'Afrique. Écoutons-les tout de suite.
Patrick Adekunle, en tant que représentant du monde des affaires dans le cadre de la coopération entre la Russie, le Nigeria et d'autres pays africains, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi est spécialisée votre entreprise et quelles sont ses perspectives de développement sur le marché russe? Mon entreprise est spécialisée dans le pétrole et le gaz. Comme vous le savez, le Nigeria est le septième producteur mondial de pétrole brut. En ce moment, nous travaillons sur une stratégie de développement de notre marché dans le cadre d'une coopération internationale fructueuse, étant donné que le marché mondial des hydrocarbures passe par des turbulences à cause de la perturbation de la production et des enjeux politiques que cela engendre. Toutes les nations cherchent à assurer leur survie énergétique. Et les entreprises qui sont à même de la fournir se doivent d'avoir une dimension humaine charitable. Et c'est tout ça le sens de ma venue à cette rencontre. C'est d'autant plus important pour mon entreprise car nous sommes à un moment de changement dans les rapports mondiaux qui impose un autre engagement du Nigeria en Afrique et dans le monde, notamment avec la Russie, qui est une grande nation et une superpuissance. Nous avons tous beaucoup à apprendre les uns des autres. Ces relations vont se construire petit à petit. Le plus important, c'est que nous ayons à l'esprit qu'il y aurait toujours des turbulences en cours de route et qu'il va falloir surmonter ensemble, sans perdre de vue l'engagement suscité par les nouvelles règles du jeu international en gestation. Par ailleurs, le Nigeria a besoin de mettre sur pied un grand plan de construction d'infrastructures de base. Étant ingénieur en génie civil, lors de ma tournée en Russie, j'ai vu beaucoup d'infrastructures importantes qui ont été réalisées ces dernières années dans le pays. Je pense qu'il est nécessaire que nous engagions un partenariat fort autour d'une grande entreprise commune dont les fondements et le mode de fonctionnement seront définis au profit des deux pays. Nous avons beaucoup de domaines à développer ensemble et je m'engage à être l'un des vecteurs de cette initiative. Comment voyez-vous la coopération technologique, étant donné que les sanctions occidentales affectent également ce domaine? Pouvez-vous ou pensez-vous qu'une coopération avec la Russie vous aiderait à diversifier ce domaine afin que vous puissiez produire localement sans avoir besoin à importer des produits finis de l'étranger? Aucun pays ne peut prétendre monopoliser le savoir scientifique et la technologie. Le bon Dieu a créé tous les êtres humains égaux et disposant des mêmes capacités créatrices. L'idée qu'un seul individu ou qu'une seule nation puisse tout faire seul est une erreur. Je crois fermement au travail multilatéral et je m'engage dans cette voie de travail en synergie avec toutes les bonnes volontés, quelle que soit leur origine. Nous ne pouvons avancer dans nos projets qu'en travaillant avec des gens qui mettent leur savoir et leurs moyens au profit d'un objectif commun. Dans ce sens, la Russie et les pays africains ont l'occasion de se réunir et de concevoir une architecture qui leur permette de mener à bien cette initiative avec une nouvelle réalité sur la scène mondiale. Monsieur Adebo Boye, pourriez-vous nous faire part de votre opinion sur les domaines de coopération entre la Russie et le Nigeria que vous considérez comme prometteurs? À cet égard, je pense que cette fois-ci, la Russie a beaucoup à gagner en Afrique. Elle l'envisage d'ailleurs très bien en ce moment. Actuellement en Afrique, il y a un important marché vierge. Côté occidental, il n'y a pas vraiment de changement dans leur façon de travailler. Permettez-moi de revenir sur l'histoire du téléphone portable. Lorsqu'il est arrivé en Afrique, les Occidentaux, c'est-à-dire les détenteurs de cette technologie, ont tiré beaucoup d'argent du continent alors que cette technologie n'a pas réussi à percer en Amérique le continent pour lequel elle était destinée. Cela montre que le marché africain est très, très important. Aussi, je suis d'accord avec vous en ce qui concerne le potentiel de croissance industrielle et commerciale de la Russie en Afrique. Si les Russes décident de venir sur le marché nigérian, ils n'auront pratiquement pas de problème pour percer rapidement. Nous avons cru beaucoup les Occidentaux et nous n'avons jamais cru en nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sortons tout juste de notre sommeil pour nous dire que nous pouvons faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Aussi, nous pouvons coordonner dès maintenant avec nos partenaires russes. C'est pourquoi c'est la première fois que le gouvernement participe à un forum d'affaires comme celui-ci, parce qu'il a le sentiment que les choses ne se passeront plus comme d'habitude. Permettez-moi de vous ramener au Nigeria. Notre moyen de survie est le pétrole brut et nous sommes à la recherche d'une autre source d'approvisionnement. La technologie devance rapidement le pétrole brut. Dans les 30 prochaines années, la technologie va nous permettre de réduire considérablement notre consommation. C'est pourquoi nous voulons rapidement diversifier notre économie qui ne repose plus sur le pétrole pour commencer à développer nos produits industriels. C'est pourquoi, pour la première fois, nous avons pris le taureau par les cornes. C'est la première fois dans l'histoire du Nigeria que nous avons un port privé. Je rappelle que la semaine dernière, le gouvernement fédéral a donné des informations sur les ports, y compris privés, qui sont un geste louable parce que nous ne nous sentons pas à l'aise en ce moment. Nous voulons stimuler les affaires. Nous voulons exploiter tous les potentiels clés du commerce et commencer à positionner l'Afrique. Et quand on parle du marché africain, la voix du Nigeria ne peut pas être inaudible, car le Nigeria est le plus grand marché d'Afrique. C'est pourquoi nous pensons qu'à ce stade, qu'il est très important que la Russie coopère avec nous en nous fournissant un leadership général et sincère. Parce que nous croyons que tout cela explique pourquoi l'Afrique est à la traîne. Nous pensons que la plupart des gens qui viennent ici ne le font pas que pour piller l'Afrique, mais également pas pour la développer, alors que la Russie vient dire qu'elle veut se lancer dans l'industrialisation. Elle donnera l'impulsion à l'Afrique et l'Afrique sera grande et la Russie sera meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. On parle beaucoup aujourd'hui de sécurité alimentaire et énergétique. Le Nigeria et la Russie sont tous deux d'importants exportateurs de produits primaires. Comment pensez-vous que nos deux pays pourraient travailler ensemble pour assurer la sécurité alimentaire et énergétique en Afrique et dans le monde en général? Je pense que le sommet organisé par la ville de Moscou a effectivement répondu à cette question car j'ai pu rencontrer l'entreprise russe qui se lance dans le bio, la fabrication de fumier. Cela pourrait résoudre ce problème. Et quand on regarde bien, quand on parle d'agriculture mécanisée, ce n'est pas très bien répondu en Afrique. Nous pensons donc que si, avec le poids de la technologie dans le domaine de l'agriculture mécanisée, notre alimentation était un élément essentiel, ce problème appartiendrait au passé en Afrique. J'ai l'impression que, vu de la tendance actuelle du blé, même l'Union européenne n'est plus à la recherche d'emplois pour les cadres. Ils ne recherchent plus d'emplois de cadres. C'est ce que tout le monde croit aujourd'hui. L'agriculture recèle un potentiel considérable. Et compte tenu de la valeur en chaîne de l'agriculture et du fait que de nombreuses écoles africaines se lancent dans ce secteur, je pense que dans un avenir proche, nous pourrons résoudre ce problème. Permettez-moi de prendre l'exemple du Nigeria. Il y a quelques années, nous avions l'habitude d'importer des céréales, c'est-à-dire du riz, de Thaïlande, d'Inde et d'ailleurs. Mais le gouvernement a décidé de les bannir. Nous nous demandons maintenant si nous allons survivre en tant que pays. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'à l'heure actuelle, le Nigeria nourrit de riz, 85% du riz consommé au Nigeria est contrôlé dans le pays. C'est un geste louable. Nous pensons donc que le gouvernement, avec tout ce potentiel et même dans le domaine de l'aviculture, voit de nombreux étrangers venir au Nigeria pour créer une entreprise agricole parce qu'il y a un énorme marché pour cela. Mais il a décidé de dire non, nous abandonnons toutes ces choses parce que nous pensons qu'ils n'en ont pas assez. Et c'est un marché énorme et nous sentons que nous sommes en train de faire avancer la technologie. En Russie, vous pouvez transformer le visage de l'Afrique et le visage du Nigeria pour nous. Et vous, Patrick, qu'en pensez-vous? Je suis un fervent partisan d'une économie tirée par le secteur privé et réglementée par l'État au Nigeria. L'État a fait la plupart des affaires dans le passé, et je n'aime pas dire cela, mais nous n'avons pas obtenu de bons résultats. Je ne cesse de le répéter dans d'autres forums. Le gouvernement n'a rien à faire dans les affaires. Il doit créer un environnement propice et laisser le secteur privé diriger l'économie, établir les règles de base et les lignes directrices pour que le secteur privé puisse apporter ses compétences de base, apporter ses capitaux en collaboration avec tous les partenaires de Russie et de tous les autres pays et les développer. Deuxièmement, le Nigeria dispose d'environ 60% de terres arables. Nous avons une population de 400 millions d'habitants. Dans les années 60, l'agriculture était le pilier de l'économie. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens quittent les zones rurales pour s'installer dans les villes à la recherche d'emplois dits pour les cols blancs qui sont désormais disponibles, ce qui a créé une crise majeure. Le président sortant a montré la voie, celle des infrastructures, du passage du monopole à la concurrence. Le secteur privé peut donc intervenir, construire des infrastructures ferroviaires et des routes. Pour la plupart des entreprises, le principal défi est d'ordre logistique. Il s'agit de transporter les produits des zones rurales vers les zones urbaines. Ce qui est positif, encore une fois, c'est que le secteur privé peut mettre en place l'infrastructure nécessaire. Vous venez de mentionner l'idée d'un établissement agricole qui est un élément clé du développement de l'agriculture en Afrique et dans mon pays. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'aide au développement agricole et à l'agriculture. Il faut que le secteur privé soit le moteur de la construction d'un formidable programme de lignes directrices et d'institutions. C'est une question de gestion de projet et vous avez un moyen de contrôler ce système. La contribution au développement de l'agriculture au Nigeria se fait de deux manières. Nous sommes confrontés au problème de l'insécurité, en particulier là où se trouvent les principales exploitations agricoles. Nous avons besoin d'une collaboration renforcée. Cela dit, il y a aussi le défi de la logistique. Une infrastructure routière en partenariat avec le secteur privé et l'État, avec les approbations et les lignes directrices nécessaires. Si nous avons tout cela en place, je peux vous dire que nous ne serons pas seulement capables de nous battre, mais aussi de remplir le continent et d'exporter tous les produits vers l'ensemble du continent et du monde. Le Nigeria est l'une des ressources en capital humain les plus formidables au monde. Je dis cela en toute modestie et nous devons créer l'espoir d'un soutien international. Alors donnez-moi une base de soutien et je ferai bouger les choses dans le monde. Donnez au Nigeria tout le soutien nécessaire. Les Nigérians sont très entreprenants et nous voulons apporter notre contribution à la communauté mondiale en coopérant avec nos partenaires, dont la Russie. Et vous, Joseph, vous voulez ajouter quelque chose? Le gouvernement ne peut pas faire des affaires, mais il fournira le mécanisme et la plateforme pour que les affaires prospèrent. Le gouverneur de l'État d'Ondo a été un leader visionnaire qui a mis en place un grand nombre de mécanismes pour alimenter cette entreprise. La plupart d'entre elles ont quitté le gouvernement et lorsque l'on attire des investissements, c'est que le gouvernement prend au sérieux la sécurité et c'est pourquoi nous avons le sentiment qu'il l'a fait pour nous. C'est ce que j'ai vu lorsqu'il a défendu l'idée que tous les pays devraient se rendre en Afrique. Lorsque vous commencez à examiner les questions, les principaux problèmes ou toutes les questions portent sur la sécurité. Et c'est ce qui alimentera la sécurité, c'est l'esprit d'un gouvernement sérieux. Et je peux vous dire que la situation n'a pas changé. Outre la police fédérale, la police de l'État a mis en place un réseau de sécurité privée dans l'État pour aller dans les coins et recoins, pour aller sur les terres agricoles afin de les sécuriser. Comme je l'ai dit, les négociants s'implantent rapidement en Afrique, malgré l'insécurité. Ils sentent que c'est le marché le plus important. Ils veulent gagner de l'argent et renforcent donc rapidement la sécurité. C'est la raison pour laquelle cela a beaucoup aidé. Si l'on fait attention aux mécanismes en place aujourd'hui, la facilité de faire des affaires dans l'État d'Ondo, comme vous l'avez mentionné, dans le domaine de l'acquisition des terres, le gouvernement a légiféré. En quelques jours, vous obtenez votre titre de propriété. Aucun État ne dispose d'un tel système. Cela signifie que même la Russie, si elle décide de venir dans l'État d'Ondo pour faire des affaires, elle réussira. Je veux montrer qu'il est possible d'obtenir de l'argent avec un titre de propriété existant que vous pouvez utiliser pour approcher une institution financière dans l'état d'origine de l'entreprise. Il faut donc que le gouvernement soit prêt à fournir cette plateforme. Je tiens à remercier Moscou pour l'organisation de cet événement. C'est un geste louable, mais cela ne doit pas s'arrêter là, selon moi. Il devrait commencer à réfléchir à la question de savoir si nous allons en organiser un autre. Je pense que la prise de conscience est très, très importante, comme vous l'avez dit, parce que les Russes ne sont même pas conscients du potentiel de l'Afrique. Je suis sûr que si nous étions conscients du potentiel de l'Afrique, bien avant aujourd'hui, ils feraient un pas en avant. Cela vient donc au bon moment. Il faut qu'ils se réveillent et ils le feront. Et si l'on examine la situation de très près, un autre problème a été soulevé, à savoir l'incertitude. Je veux dire qu'il devrait être difficile pour vous, la Russie, d'atteindre le seuil de rentabilité en essayant de commencer à produire d'ici à l'Afrique. En fait, il y a beaucoup de potentiel.
C'était Patrick Adejeji, PDG de la société nigérienne Fitzpatrick Energy and Logistics Limited, et Prince Adeboboy Ologbeze, commissaire pour l'intégration et les relations des diasporas dans l'État d'Ondo pour Spoutnik Afrique. À notre micro, ils ont évoqué les perspectives que leur pays, le Nigeria, offre à la Russie et donné les clés pour la réussite d'un partenariat gagnant-gagnant. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons dès à présent l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. En attendant, je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.